VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 6 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Libération attendue des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Une première vague a recouvré la liberté aujourd'hui. Au Nigeria, l'armée annonce avoir tué 78 membres de groupes criminels. Des frappes aériennes ont visé les camps de ceux que les autorités appellent les bandits dans le nord-ouest du pays. En Tunisie, un haut responsable du parti Ennahda en résidence surveillée. Ses collègues soulignent qu'Ennahda s'oppose à la confiscation des pouvoirs par le président Kais Saied. Escalade des tensions entre le Liban et Israël. L'ONU qualifie la situation de très dangereuse. Ne manquez pas dans cette session d'information les sports avec notre spécial Jeux Olympiques. Mais tout d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, des prisonniers ont été libérés aujourd'hui à la veille de la fête de l'indépendance. Les leaders de l'opposition ivoirienne en avaient fait la demande au président Alassane Ouattara. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, cette libération a été confirmée à VOA Afrique par Franck Kwasi Anderson, un membre de la direction du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Elle intervient après la rencontre le 27 juillet entre Laurent Gbagbo, récemment rentré au pays après 10 ans d'exil, et le président Ouattara. Gbagbo avait notamment insisté sur la libération de ses camarades arrêtés depuis la crise de 2010-2011, mais aussi d'autres incarcérés plus récemment. La liste publiée ce vendredi par le FPI comprend 16 noms. Selon le quotidien Fraternité Matin, parmi les personnes libérées figurent Ndri Kouadio, Pierre Narciste, directeur de cabinet du président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, et Daguédé Paulin, un membre de la jeunesse du FPI, ainsi que plusieurs jeunes de Dabou qui étaient incarcérés à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Avant cette annonce, l'ancien président et chef de l'opposition, Henri Conan Bédier, avait aussi appelé dans un courrier le chef de l'État, Alassane Ouattara, à libérer les détenus politiques, civils et militaires de la période de 2010 à 2020. Il avait aussi demandé à M. Ouattara la cessation des poursuites judiciaires dont ils font l'objet. Le président Ouattara doit prononcer ce soir à 20h un discours à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960.
L'armée de l'air du Nigeria a annoncé avoir tué des dizaines de membres de groupes criminels surnommés bandits par les autorités lors de frappes aériennes dans le nord-ouest du pays. Les détails avec Nani Talani.
Dans un communiqué publié hier soir, le porte-parole de l'armée de l'air nigériane, le commandant Edouard Gabkouet, annonce que plus de 78 bandits ont été neutralisés et leur camp détruit au cours d'une attaque coordonnée. L'armée de l'air affirme avoir lancé l'opération après avoir localisé la semaine dernière des bandits qui se déplaçaient à moto dans la forêt de Kwambana, dans l'état de Zamfara. En juin 2020, les forces armées avaient annoncé avoir tué 70 bandits dans la forêt de Kasha, dans l'état de Kaduna, lors d'une opération dans le nord-ouest et le centre. Ces deux régions du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années d'activités de bandes de criminels qui attaquent, pillent et enlèvent les villageois dont ils volent le bétail et brûlent des maisons. Les forces de sécurité y subissent aussi de fréquentes attaques avec parfois de lourds bilans humains. L'armée nigériane a déployé récemment de nouveaux moyens, notamment des avions de combat dans la région, pour mettre un terme aux violences des bandits. Ces derniers se sont reconvertis depuis quelques mois dans l'enlèvement de masse d'écoliers ou de lycéens contre rançon. Les violences des bandits ont fait plus de 8000 morts, selon un rapport du Centre de réflexion ICG publié en mai 2020.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier un important remaniement gouvernemental avec 10 nouveaux ministres, notamment à la Défense, aux Finances et à la Santé, dont le titulaire est accusé de corruption. Zouelim Kizé, 65 ans, médecin de formation, largement salué pour sa réactivité face au Covid-19, avait été placé en congé spécial début juin suite à l'ouverture d'une enquête pour corruption visant deux de ses proches au ministère dans le cadre d'un contrat public pour lutter contre la pandémie. Aux finances, Tito Mboweni, célèbre aussi pour son humour et sa passion pour la cuisine, cède sa place après avoir navigué à travers une période économique particulièrement difficile, a déclaré le président sud-africain. Les forces rebelles de la région éthiopienne en guerre du Tigré ont rejeté les appels à leur retrait des régions voisines au lendemain de leur prise de contrôle de Lalibela,
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien de la sorte ne va arriver à moins que le blocus ne soit levé, a déclaré aujourd'hui leur porte-parole Getachew Reda, en référence à l'accès humanitaire, affirmant que les rebelles n'allaient pas se retirer de Rafah et de l'Amara. Les forces du Front de libération du peuple du Tigré se sont emparées hier de la ville Amara de Lalibela, un site célèbre pour ses églises taillées dans le roc et classé par l'UNESCO au patrimoine mondial. Le ministère tunisien de l'Intérieur a assigné à résidence un haut responsable du parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force parlementaire du pays. Cette décision intervient 11 jours après le coup de force du président Kais Saied, qui a suspendu l'Assemblée nationale dans un contexte de défiance entre les députés. Les précisions de John Lindon.
Anwar Maarouf, membre le plus éminent d'Ennahda, pris pour cible depuis que le président Kais Saied a destitué le premier ministre et suspendu le parlement le 25 juillet, a été assigné à résidence par le ministère tunisien de l'Intérieur. Ses collègues soulignent qu'Ennahda s'oppose à la confiscation des pouvoirs par le président Kais Saied. Le ministre tunisien de l'Intérieur n'a pas fourni d'informations concernant cette décision. Plusieurs politiciens et hauts responsables ont été placés en détention après la levée par le président tunisien de l'immunité des législateurs. Le conseil consultatif du parti Ennahda, réuni mercredi en session extraordinaire pour discuter de la situation, a souligné dans un communiqué jeudi la nécessité de mener une autocritique approfondie de ses politiques. Il s'est engagé à procéder aux révisions et renouvellements nécessaires de ses programmes et des structures directrices du parti. Ennahda dit aussi comprendre la colère de la population, notamment les jeunes, en raison d'un échec économique et social ces 10 dernières années.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, est attendu au Maroc la semaine prochaine. Ont annoncé ce vendredi les deux pays. Ce sera le premier voyage dans le royaume du plus haut diplomate israélien depuis qu'ils ont normalisé leurs relations. La visite est prévue les 11 et 12 août. Le Maroc a été l'un des 4 pays arabes à avoir accepté l'année dernière de normaliser les relations avec Israël, avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Le gouvernement haïtien a demandé aux Nations Unies de conduire une enquête internationale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu le mois dernier, a annoncé jeudi l'ambassade haïtienne en République dominicaine. Haïti a envoyé une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il appelle à ce qu'une commission d'enquête internationale et une cour de justice spéciale soient formées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Riposte de l'armée israélienne après des tirs de roquettes du mouvement chiite libanais Hezbollah. Elle a mené des frappes sur le Liban ce vendredi. Aucun bilan ne fait état de victimes pour le moment. Le point avec Abdourahman Dia.
Le Hezbollah a déclaré ce vendredi avoir tiré des dizaines de roquettes sur Ardov, un versant du mont Hermon revendiqué par le Liban, mais qui, selon l'ONU, fait partie du Golan syrien occupé par Israël. Cette escalade a débuté mercredi et ce matin, l'armée israélienne a de nouveau mené des frappes après que plus de 10 roquettes ont été tirées du Liban vers Israël, d'après un communiqué militaire. La plupart des roquettes ont été interceptées par le système de défense aérienne, a rapporté l'armée israélienne. Tel Aviv dit ne pas souhaiter une détérioration qui aboutirait à un nouveau conflit armé. En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires. Après différents conflits, Israël et le Liban demeurent techniquement en état de guerre et la force intérimaire des Nations Unies est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre les deux pays. Hier, le commandant de la mission onusienne, le général Stefano Del Col, a tenu une réunion tripartite avec des responsables militaires des deux pays, appelant au calme.
Le chef du service de communication du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, a annoncé le ministère de l'Intérieur quelques jours après que les talibans ont promis de cibler des responsables gouvernementaux. Malheureusement, les brutaux et sauvages terroristes ont commis un nouvel acte lâche et tué un patriote afghan qui résistait à la propagande ennemie, Dawa Khan Menapal, lors de la prière du vendredi, a déclaré le porte-parole du ministère, Mirwais Tanzai, dans un message WhatsApp à destination des médias. Le Japon a commémoré aujourd'hui le bombardement atomique du 6 août 1945 à Hiroshima, avec cette année une controverse liée au refus du Comité international olympique d'appeler à une minute de silence aux Jeux olympiques de Tokyo en cours. Get into the game. Place maintenant au sport, la couverture spéciale des Jeux olympiques avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les Jeux africains prennent fin ce week-end et la course aux dernières médailles est lancée. Les médailles d'or du 5000 mètres messieurs et du 1500 mètres dames reviennent à des Africains. Bagasikoura.
Oui, Joshua Cheptegei remporte le titre olympique du 5000 mètres après sa médaille d'argent au 10 000 mètres. L'Ougandais de 24 ans, détenteur du record du monde, a parcouru la distance en 12 minutes 58. Le Canadien Mohamed Ahmed est arrivé deuxième et l'Américain Paul Chelimo a remporté la médaille de bronze. Joshua Cheptegei succède ainsi au Britannique Mo Farah qui a réalisé le double-double 5000 et 10 000 mètres aux Jeux de 2012 et 2016, mais qui n'a pas réussi à se qualifier pour Tokyo 2020. Aux 1500 dames, la Kenyane Fefe Kipyegon conserve son titre olympique devant la redoutée néerlandaise d'origine éthiopienne Sifan Hassan. À 33 ans, Kipyegon a battu le record olympique établi par la Roumaine Paula Ivan aux Jeux de Séoul en réalisant un temps de 3 minutes 53 secondes. La championne d'Europe britannique Laura Murray a produit un record national de 3 minutes 54 avec une solide finition pour remporter l'argent, Hassan se contentant du bronze en 3 minutes 55.
Merci Bagassi. Dans le reste de l'actualité de ces JO, en football féminin, la gardienne Stéphanie Labbé a été énorme au tir au but pour permettre au Canada de remporter la finale avec 3 tirs réussis contre 2 face à la Suède dans cette épreuve fatidique. Le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. C'est la première médaille d'or olympique en football féminin pour les Canadiennes. En basketball, dames, les Américaines se sont qualifiées pour la finale en battant les Serbes 79-59 en quête d'un 7e sacre olympique d'affilée aux JO. Team USA affrontera ce dimanche les Japonaises, vainqueurs de la France 87-71 dans l'autre demi-finale. Ces JO se déroulent dans un contexte où Tokyo a enregistré hier un nouveau record de cas de COVID-19, plus de 5000 nouvelles infections quotidiennes. Cette flambée de cas contraste avec la vie plus ou moins calme dans le village olympique et les aires de compétition où on compte moins de 160 cas de COVID-19. Immersion dans ces deux mondes différents dans une même ville avec un médecin urgentiste des JO, le docteur Shoji Yokobori, qui supervise un site avec des protocoles stricts, sans spectateurs et à faible risque d'infection. Nanit Talani.
Le docteur Shoji Yokobori, médecin d'urgence des Jeux olympiques, passe étrangement des jours calmes depuis le début des JO, malgré la flambée des cas de COVID-19 à Tokyo. Mardi, il a supervisé l'haltérophilie, où il n'a vu aucune blessure majeure et jusqu'à présent, aucun cas de coronavirus parmi les acteurs concernés par cette discipline.
Maintenant, je me sens tellement en sécurité ici parce que nous n'avons pas eu de cas de COVID-19. Et vous savez, nous ne ressentons pas la pandémie, un peu comme dans une bulle.
La vie de Yokobori dans le village olympique, où plus de 80% sont vaccinés contre le coronavirus, contraste fortement avec sa vie régulière à l'extérieur. Lui qui dirige l'unité de soins intensifs du Nippon Medical School Hospital de Tokyo. Mais ce monde n'est jamais loin. Il reçoit toujours des appels urgents de son propre personnel hospitalier, lui posant des questions telles que l'utilisation d'une assistance pulmonaire pour des cas critiques de COVID-19.
Quand nous retournons dans le monde réel, comme dans un hôpital, il y a beaucoup de patients atteints de COVID-19 ici. Donc nous luttons tous les jours. Notre équipe lutte aussi. Et donc cela épuise un peu. C'est un peu comme le paradis et l'enfer.
Le docteur Shoji Yokobori dit s'inquiéter de l'aggravation du nombre de cas au Japon et affirme qu'il est prêt à quitter définitivement le site olympique pour retourner à l'hôpital si la situation du virus s'aggravait. Mais ce médecin a été contraint de fournir un niveau de service inférieur à celui qu'il préférerait afin d'éviter la contamination croisée entre son lieu de travail et les sites olympiques.
Merci Nanit. C'est ici que se referme cette page consacrée aux Jeux Olympiques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Pion de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'opposition béninoise à la croisée des chemins, même avec la désignation d'un chef de file, cette partie de la classe politique béninoise se remet difficilement de son absence à 3 élections majeures. Secouée par des querelles intestines, elle a du mal à présenter une alternative forte et crédible face au président Patrice Talon. Défis et perspectives des opposants au Bénin avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Feur-Adandé.
L'opposition béninoise est-elle à la croisée des chemins? Ils sont nombreux à dire qu'elle pense ses blessures pour reprendre sa place dans l'animation de la vie politique au Bénin. Pour Salomon Ojo du parti FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, il devient urgent pour l'opposition de se réveiller.
La démocratie, c'est une lutte de longue haleine. De quoi aurait pensé que l'opposition béninoise a échoué? Mais nous vous disons non. L'heure a sonné pour que, autour d'une union sacrée, l'opposition béninoise puisse prendre ses responsabilités et libérer dans les années à venir notre peuple du joug de la misère, de l'oppression, des emprisonnements abusifs et arbitraires que subissent aujourd'hui nos populations.
Mais pour Antoine Guédou, membre du JFCR, l'opposition doit pouvoir apprendre de ses erreurs pour faire bloc contre le pouvoir. C'est la seule condition, dit-il.
Nous devons nous départir de nos idées selon lesquelles sans nous, rien ne vaut. Nous devons travailler pour la nation. Laissons tomber nos querelles du passé. Le pouvoir cherchera toujours à nous diviser. C'est ça qui l'arrange. Et je crois que l'opposition doit se ressaisir. Opposition ne dormait point.
Mais que peut faire l'opposition si son chef de file ne reçoit pas la bénédiction de tous? Pour le Béninois lambda, l'opposition risque d'être longtemps absente des élections.
Notre démocratie a franchi une étape, celle de la reconnaissance de l'opposition. C'est un peu avoir un œil sur les actions de la mouvance, en fait. Malheureusement, au Bénin, on est toujours habitué à voir la mouvance et l'opposition en guerre.
Entre eux-mêmes, ils ne s'entendent d'abord pas. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent aller dire à quelqu'un pour que les autres puissent le croire?
Mais ce n'est pas le seul problème de l'opposition béninoise. Elle est animée par des personnes qui s'y sont retrouvées par colère après avoir perdu le pouvoir. Pour Espérance TB du MPL, le mouvement du peuple pour la libération, il est impossible d'avancer dans de telles conditions.
Ceux qui sont sur la scène depuis des décennies et on les recycle, c'est les mêmes, ils tournent, c'est les mêmes. Ils reviennent nous dire autre chose. La saison qui suit, ils viennent encore dire autre chose. Il faut qu'on puisse ensemble pour dire non à tout ça maintenant. On va arrêter ce cycle-là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des certitudes que on ne peut pas, dans le désordre, avancer. On ne peut pas non plus s'accoutumer avec des gens qui ont des intérêts personnels. Ils sont nombreux, vous les voyez tous les jours. C'est eux qui crient le plus.
Le chef de file de l'opposition se veut rassurant. Pour Paul Rompuy, le statut de l'opposition est une opportunité à saisir.
Nous allons jouer notre partition pour que à chaque régime dans notre pays, qu'il y ait toujours en face une opposition suffisamment bien lotie pour contribuer à mieux gérer le pays. Et à nos frères de l'opposition de nous rejoindre, d'accepter que nous puissions nous organiser pour expérimenter cette voie. Si il n'est pas possible d'aller à un dialogue national et qu'il est possible tout de même d'avoir un créneau pour s'approcher donc du pouvoir et de poser réellement les problèmes, eh bien, nous pouvons nous en contenter pour le moment.
L'opposition semble vidée de ses plus grands ténors, pour la plupart en exil et d'autres arrêtés en attente de jugement. De Cotonou, Ginette Leadandé pour VOA Afrique.
En Tunisie, Anouar Marouf, dirigeant du parti d'opposition Ennahda et ancien ministre, a été placé en résidence surveillée moins de 2 semaines après la suspension de l'Assemblée et la destitution du premier ministre par le président Kais Saied. Ennahda a qualifié de coup d'État les décisions du président Saied et a organisé un sit-in de protestation devant le Parlement. Qu'est-ce qui peut justifier l'assignation à domicile d'Anouar Marouf? Est-elle liée à ses activités politiques? Pour analyser la situation, Nani Talani a joint Mourad Selima, rédacteur en chef de la plateforme The Voices. Il est basé à Tunis, la capitale tunisienne.
C'est un juge qui a décidé l'assignation en résidence de personnes poursuivies par la justice. C'est des affaires anciennes qui n'ont rien à voir avec la politique. Les personnes assignées à résidence jusque-là sont deux juges poursuivis dans des affaires, l'un de terrorisme, il s'appelle Béchir el-Akrami, qui est classé proche de Nahda, mais c'est un juge qui a été poursuivi par le Conseil supérieur de la magistrature, traduit devant le Conseil de discipline. Il y a un autre juge aussi, le président de la Cour de cassation, qui n'est pas proche de Nahda, mais qui est accusé dans des affaires de corruption, qui a été assigné à résidence. Il s'appelle Taïb Rachid. Donc ça, ce sont les deux juges, les deux ministres assignés à résidence. L'un était ministre de la technologie, le dirigeant de NASA, Anwar Maroufi. Il a une affaire dans la justice, il a été assigné à résidence. Il y a un autre aussi, qui n'est pas Nahdaoui, qui n'est pas proche de NASA, et qui est également assigné à résidence parce qu'il a une affaire avec la justice.
Cette affaire peut-elle être qualifiée de politique ?
L'affaire ne peut pas être qualifiée de politique, c'est plutôt avant le 25 juillet, c'est-à-dire avant le changement du statut politique de notre pouvoir, ces affaires étaient dans les tiroirs. Avec le changement du 25 juillet, le parquet est devenu plus libre dans ses réactions et il a ouvert tous les dossiers.
Cette affaire qui intervient au moment où il y a de vives tensions entre Ennahda et le président Kais Saied ne risque-t-elle pas d'avoir des répercussions politiques ?
C'est clair, c'est qu'avant, le parquet avait des instructions de cacher ses dossiers. Donc, ces restrictions ont été omises et les dossiers sont retirés des tiroirs.
Comment les citoyens accueillent-ils tous ces changements, toutes ces décisions ?
Je pense que pour les citoyens, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la justice agit plus librement. D'ailleurs, il y a pas mal d'affaires qui sont retirées des tiroirs ces derniers jours. Il y a plein de députés. Ce n'est pas un hasard si le président de la République a demandé de lever l'immunité parlementaire des députés. Parce qu'il y a près de 70 députés sur les 217 qui sont poursuivis par la justice dans des affaires de droit commun. Ce ne sont pas des affaires politiques. Finalement, l'immunité parlementaire, elle est faite pour protéger le député contre l'éventuel impact de ses positions politiques, pas pour un dépassement du droit commun. Toutes ces affaires vont se poursuivre devant la justice. Ce qui est, d'un point de vue populaire, d'un point de vue de la société civile, c'est bien vu, c'est bon. Que les députés ne se cachent pas derrière leur prétendue immunité parlementaire. Là, les politiques aussi. Les politiques étaient cachés derrière leur statut politique, avoir du soutien des partis au pouvoir, etc. Et peuvent outrepasser la justice. La population accueille bien ces informations. Pourvu que ça se poursuive, qu'il n'y ait pas un lynchage pour quiconque, qu'on respecte la loi et c'est tout. On veut que la loi soit respectée par tout le monde. C'est le souhait de tout le monde, finalement, partout dans le monde.
Mourad Selima, rédacteur en chef de la plateforme de Voices.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Jeux Olympiques prennent fin ce dimanche à Tokyo, mais avant la fin de ces JO, la présence des Africains sur les podiums de récompense se fera. Des sports collectifs aux individuels, la plupart des sportifs africains qui performent à l'international poursuivent leur formation ailleurs et non sur le continent. Pour savoir pourquoi à un moment donné de leur formation, ces athlètes se sentent obligés de quitter le continent pour mieux faire, Yakuba Ouedraogo a joint à Tokyo au Japon Papa Serindien, il est le directeur technique national de la Fédération sénégalaise d'athlétisme.
Pour la performance, il faut des conditions de performance. Et ces conditions de performance, très souvent, ne sont pas réunies au Sénégal, en Afrique. Pour chercher ces conditions de performance, les athlètes, les grands sportifs, n'hésitent pas à aller en Europe, parfois aux États-Unis, pour vraiment performer. Et parmi ces conditions de performance, c'est les structures d'entraînement, d'abord. Il faut vraiment un cadre d'entraînement approprié. Après le cadre d'entraînement, il faut des compétitions de valeur. Et très souvent, en Afrique, les compétitions font défaut. Ce qui pousse le plus les athlètes à aller en Europe, mais aux États-Unis pour trouver vraiment des compétitions de taille.
On sait que dans des centres d'athlétisme comme celui de Dakar, qui est quand même une référence en Afrique de l'Ouest surtout, il y a certains athlètes africains qui s'y retrouvent pour se perfectionner, d'autres non. Qu'est-ce qu'ils cherchent ailleurs et que le centre de Dakar, par exemple, ne peut pas leur fournir?
C'est le cadre d'entraînement. Donc, par rapport à notre cadre habituel en Afrique, le centre offre un cadre meilleur. Mais on peut retrouver mieux en Europe ou bien aux États-Unis. En plus de cela, par exemple, si on prend le cas de cette année-ci, les athlètes ont été bien encadrés. À un certain moment, il fallait des compétitions. Et maintenant, Covid étant, ils n'avaient pas la possibilité de voyager convenablement pour se frotter aux meilleurs et faire assez de compétitions afin vraiment d'augmenter leur niveau de performance et atteindre leur pic de performance.
Les Jeux Olympiques regroupent plusieurs sports, mais en dehors, par exemple, des épreuves de course où les Africains de l'Est du continent raflent généralement les médailles, dans les autres disciplines, on ne voit pas trop briller. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, c'est renforcer le niveau de formation des cadres techniques. Donc, dans certaines disciplines, ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas assez doués, mais parfois, les cadres techniques qui doivent encadrer les athlètes font défaut. Après avoir maintenant amélioré les cadres qui doivent encadrer ces athlètes, renforcer les conditions d'entraînement et faire assez de meetings. Et si on prend le cas spécifique de l'athlétisme, en Afrique, à un certain moment, on avait assez de champions dans plusieurs disciplines parce qu'on se retrouvait au minimum avec 17 meetings. Mais présentement, on a zéro meeting pratiquement organisé et qui où les Africains peuvent vraiment se rivaliser et après upgrader leur niveau. Je pense que ça fait vraiment défaut à notre discipline et en général dans les autres disciplines aussi.
Les Jeux Olympiques finissent ce dimanche. Dites-nous déjà, qu'est-ce que vous pensez de la participation des Africains en général à ces JO de Tokyo 2020?
Participation assez timide, hein. Je pense qu'on peut nettement améliorer en essayant d'améliorer le cadre d'existence en Afrique. Parce qu'on ne peut pas amener tout le monde en Europe pour les entraînements et autres. On ne peut pas toujours avoir des expatriés comme porte-vitrine.
Papa Serigne Diène, directeur technique national de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, joint à Tokyo au Japon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont commencé à accorder des visas d'immigrants spéciaux à des milliers d'Afghans devenus des cibles pour les talibans car ils ont travaillé pour l'armée américaine. Madi Miraïn de VOA s'est entretenue avec une jeune femme qui a quitté l'Afghanistan dans le cadre du programme SIV. Récit Claire Morin-Gibou.
L'architecte afghane Massouma Delijam, âgée de 32 ans, a quitté son pays pour l'Amérique en 2017. Elle craignait que son travail sur des projets de développement financés par les États-Unis en Afghanistan ne fasse d'elle une cible des talibans. L'un de ses projets consistait à aider à restaurer le palais Darul Aman à Kaboul, qui a subi des dommages importants lors de la guerre civile dans les années 90. Elle se souvient d'une rencontre avec les talibans.
J'étais à Kandahar avec une équipe de collègues afghans en voiture pour une visite sur site d'un projet financé par les États-Unis. Notre chauffeur s'est rendu compte qu'une voiture nous suivait. Nous avons changé notre itinéraire et avons immédiatement appelé les forces de sécurité afghanes. Ils sont venus et puis la voiture a disparu. Plus tard, les forces de sécurité nous ont dit que des militaires talibans essayaient de nous capturer. Heureusement, les talibans n'ont rien pu faire. Je pense que si nous avaient capturés, je ne serais pas en vie maintenant.
Grâce au programme SIV, Massouma Delijam vit et travaille aux États-Unis. Les talibans ont déclaré début juin que les Afghans qui ont travaillé avec les forces américaines seront en sécurité tant qu'ils manifesteront des remords et ne chercheront pas à s'exiler. Mais le groupe américain No One Left Behind affirme que les attaques de ces militants contre les interprètes travaillant avec les États-Unis ainsi que les membres de leurs familles ont tué plus de 300 personnes depuis 2014. Madame Delijam craint que ses parents, ses frères et sœurs à Kaboul ne soient en danger maintenant que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan.
Pour la plupart des Afghans qui vivent ici, nos corps sont ici, mais nos âmes sont avec nos familles qui ne sont pas en sécurité. Tout ce qui m'importe, c'est leur survie.
Le programme SIV profite à la fois aux États-Unis et à l'Afghanistan, estime le professeur de sociologie afghan Assam Rezaei.
Cela prouve l'engagement moral des États-Unis pour la sécurité de leurs partenaires en Afghanistan. Le programme a également un impact social. L'immigration aux États-Unis de dizaines de milliers d'Afghans qui ont aidé l'armée américaine créera un vaste réseau social qui pourra communiquer avec l'Afghanistan et partager des expériences de vie avec les gens là-bas.
Le Le gouvernement américain affirme que 70 000 Afghans ont immigré aux États-Unis depuis 2008 dans le cadre du programme SIV. La semaine dernière, Washington a entamé le processus de mise en sécurité de 2 500 Afghans supplémentaires avec l'arrivée d'environ 200 personnes à Fort Lee, en Virginie.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.